bienvenue dans le podcast Sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes?
Alors direction les champs, on part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti!
Allez, Ambre, c'est parti! On sort les micros!
Ah ouais, c'est l'heure du concert!
Non. Ambre, on avait dit que ce coup-ci, on serait sérieuse. C'est le moment du podcast sur le champ.
Ah oui, c'est vrai! Allez, c'est parti. Alors voilà, on est chez François depuis 3 semaines et on n'a pas eu 2 journées pareilles depuis qu'on a rejoint la ferme de Vilaine. On a vécu vraiment plein de moments super intenses et on a beaucoup de choses à vous raconter. Mais commençons par le commencement.
À travers ce podcast, on va vous présenter François, sa ferme, son métier, son quotidien. On va parler élevage, grande culture, transformation à la ferme, vente en direct. Alors voilà, on commence.
Alors hello François.
Hello les filles.
Comme tu as pu le constater, en 3 semaines, nous, on aime bien rigoler et on s'est rendu compte que les agriculteurs avaient beaucoup de blagues d'agriculteurs. Alors toi, quelle est ta blague fétiche?
J'en ai plusieurs, mais comme j'affectionne particulièrement les vers de terre et on en parlera, j'en ai une petite. Alors du coup, c'est un ver de terre qui sort de son trou juste après la pluie, il fait un grand soleil et là, il sort de son trou, il voit un autre ver de terre. Et puis il dit « Beau temps, hein ?» Pas de réponse. « C'est un temps idéal pour aller à la pêche quand même ?» Pas de réponse. Le ver de terre s'énerve un petit peu, il dit « Dis donc, je vous ai parlé !» Toujours pas de réponse. Et là, le ver de terre grommelle, il fait « Ah mince, je parle encore ma queue
!» Ok, merci pour cette blague.
On a passé 3 semaines de bien.
Ouais, voilà, comme vous pouvez le voir, on a bien rigolé pendant 3 semaines. On s'est pas ennuyé. Allez, place aux choses sérieuses. Raconte-nous alors un peu ton parcours et comment tu es devenu agriculteur.
Eh ben du coup, moi je suis fils d'éleveur de chevaux à la base, et donc ils avaient un centre équestre et puis un élevage en sel français, donc plutôt saut d'obstacles et dressage, et j'ai toujours vraiment baigné dans le monde de l'élevage, et donc le lien à l'animal est très important pour moi. Et donc j'ai toujours fait mes études en lien avec la biologie, les animaux, les sciences de la terre, et donc dans ce sens-là, j'ai toujours aussi voulu devenir éleveur et agriculteur. Et donc je me suis orienté vers, comme j'aimais les études, je me suis orienté vers des études d'ingénieur en agriculture en me disant ce sera d'autant plus facile auprès des partenaires, notamment financiers, pour obtenir des accords d'investissement ou autres et se donner le bagage nécessaire pour s'installer, quoi.
Donc maintenant, t'es agriculteur depuis 2 ans?
C'est ça, tout à fait. Donc j'ai repris au 1er janvier 2018, derrière des agriculteurs qui partent à la retraite. Alors c'est pas du tout de la famille. Moi je suis flamand d'origine, donc à côté de Lille, au pied des monts des Flandres en France. Et j'ai vécu une partie de ma vie en Normandie. Et puis petit à petit, je migre au sud. Donc maintenant, me voilà arrivé en Anjou, à Beaujon-d'Anjou.
Et pourquoi le Maine-et-Loire? Comment est-ce que tu as trouvé cette ferme? Qu'est-ce qui t'a convaincu de rester dans cette région?
Eh ben du coup, moi je suis arrivé dans les Pays de la Loire pour mon mémoire de fin d'études d'école d'ingénieur en agriculture que j'avais fait à Rouen, donc en Normandie. Et j'ai été embauché par Terena, une coopérative importante de France, où j'étais responsable machinisme, agroéquipement et nouvelles technologies, donc capteurs, drones, enfin robotique, tout ça. Et donc je suis arrivé en SNI, en Loire-Atlantique. Donc mon premier logement a été dans le Maine-et-Loire. Et j'ai découvert le Maine-et-Loire et j'ai toujours aimé la vallée de la Loire. Et donc, je sais pas, il s'est passé quelque chose avec le Maine-et-Loire. Et quand je suis arrivé chez Terena, j'ai visité pas mal de fermes dans le cadre de mes projets. Notamment, et puis un jour, j'ai découvert une annonce sur Internet d'une exploitation qui était à reprendre. Et donc, c'était cette ferme. Et à l'époque, ma femme travaillait juste de l'autre côté, donc c'était l'opportunité en fait, de l'autre côté de la haie de la ferme. Donc on s'est dit waouh, c'est génial, une ferme, un lieu de vie, c'est parfait.
Mmh. Ouais, super. Et ton arrivée du coup en Maine-et-Loire, est-ce que t'as réussi à te faire facilement accepter en tant que non issu du milieu agricole, ou ça a été au début un peu compliqué pour toi?
Dans le cadre de l'installation.
Ouais.
Non, ça s'est globalement bien passé parce que je pense que je suis assez sociable, on va dire.
Ça, on l'a vu, oui.
Donc ça, oui, ça s'est très très bien passé globalement. Et puis en fait, du coup, quand j'ai vu l'annonce, on a répondu aux démarches administratives qui sont mises en place par la Chambre d'agriculture, donc par le répertoire des installations, et on a été accompagné. Donc on a vraiment fait ça, entre guillemets, en suivant les démarches requises, puisque je faisais une installation aidée. Et du coup, bah, ça permettait d'apprendre à connaître les cédants et l'environnement de la ferme. Et on a mis en place un stage de parrainage où on travaille ensemble avec les cédants. Et donc, ça vraiment permet de bien comprendre l'environnement, de comprendre les voisins avec qui on travaille, les collègues au sein des coopératives d'utilisation de matériel agricole, toutes ces choses-là. Donc, ça permet de faciliter l'intégration d'un nouveau qui arrive. Et puis, après, ça me dérange pas de prendre des responsabilités au sein des différentes organisations. Et ça, je pense que pour l'intégration, ça joue beaucoup.
Ok. Ok, c'est une belle histoire déjà. Et on aimerait bien que tu nous décrives la ferme de Vilaine de manière un peu factuelle. Voilà, qu'on fasse une sorte de paysage de ce qu'il y a autour de nous. Comme il pleut des cordes, on va pas le faire, on va pas faire une vraie balade, mais on aimerait bien se balader à travers ta ferme pour que tu nous parles de combien d'hectares tu as, qu'est-ce que tu élèves, quelles bêtes tu élèves ici, pour que tous nos auditeurs connaissent mieux finalement la ferme de Vilaine.
Donc, pas de souci. Donc, en fait, nous, on a une exploitation agricole qui fait... Enfin, quand je dis nous, c'est avec mes salariés. Donc, j'ai une exploitation agricole de 91 hectares. On a à peu près 55 hectares en prairie temporaire et permanente, donc pour le pâturage des animaux, et le restant en grande culture, blé tendre d'hiver pour la vente de céréales et la production de paille pour les animaux, pour la litière. On a du métail grain, donc le métail c'est un mélange de céréales et de légumineuses pour la production d'aliments pour les animaux, donc ça c'est l'autoconsommation, donc et puis on produit de la paille aussi avec cette culture. On fait du maïs à la fois destination fourrage pour les animaux et grain. On fait du sorgho fourragé, donc qu'on a en test sur la ferme depuis un an pour la production de fourrage. On fait beaucoup de luzerne pour la production de protéines à la ferme, et puis du tournesol. Voilà. Donc jusqu'à présent, on faisait aussi de la luzerne porte-graine, donc pour la production de semences fourragères. Donc ça, c'est une culture qui est très intéressante parce qu'on produit à la fois du fourrage en première coupe et aussi ça fait une production annexe dans la rotation, et c'est vraiment une culture intéressante pour le nettoyage des parcelles et les rotations.
Okay.
Voilà. Donc ça, c'est pour la partie production végétale de la ferme. On a notre atelier principal qui n'est pas les cultures, qui est l'élevage. Donc là, on a je vais dire que c'est un atelier d'engraissement, parce que en fait, on n'est pas naisseur en bovin-viande. On achète toutes nos vaches à 8 mois chez les voisins, à 15 km autour de la ferme. Et donc de 8 mois jusqu'à... Je les garde jusqu'à à peu près 2 ans et demi, 3 ans, en fonction de la génétique des animaux. Et donc là, elles pâturent quasiment toute leur vie. 75% de l'année, elles sont en pâturage. Le restant, c'est du bâtiment. Ça correspond à la période hivernale, en fait. Pour préserver les prairies, elles sont rentrées. Donc, on a à peu près en présence entre 80 et 90 génisses bouchères, selon les années. Donc, on travaille quasiment que sur la femelle. J'ai des bœufs un peu pour tester en ce moment, puisque j'ai repris depuis pas longtemps et que je m'approvisionne qu'en local, de voir si le bœuf est intéressant pour la production de viande aussi. Et donc, c'est pour se faire la main. Et le deuxième atelier d'élevage qu'on a, là, c'est un élevage de biches, donc biches et cerfs. On a 70 mères reproductrices et un mâle, enfin, on avait deux mâles reproducteurs, et comme on est en diminution de cheptel, on n'a plus qu'un mâle. Et donc, on a un élevage de cervidés en plus. Donc là, on est naisseur-engraisseur, on fait toute la chaîne de A à Z. Et le troisième atelier, du coup, qui est la transformation et vente directe à la ferme, donc... On est quatre à vivre de l'exploitation agricole, et sur les quatre, j'ai un boucher charcutier à temps complet, un apprenti boucher charcutier qui fait son brevet de professionnalisation chez nous, et une personne qui est très transversale, mais qui fait 3 jours par semaine du laboratoire, tout ce qui est conditionnement, transformation, c'est vraiment la personne à tout faire, elle touche à tout, et 2 jours par semaine sur la ferme avec moi, à l'élevage, aux cultures, tout ce qui est possible de faire. Donc... c'est des postes qui sont très polyvalents, mes deux bouchers charcutiers font aussi la vente, donc comme moi, et donc comme ça nous permet d'avoir une pleine maîtrise en fait de notre produit en fait. On gère tout de A à Z, de l'élevage jusqu'à la vente. Ça nous permet d'avoir le contact direct, les retours directs avec les clients, voilà.
Et donc comme on a passé donc 3 semaines chez François, on s'est bien régalé, on a eu l'occasion de goûter pas mal de produits que tu proposes en vente directe. Est-ce que tu peux dire un peu pour nos auditeurs qui peuvent pas les goûter, qu'est-ce que tu proposes, à quoi ça ressemble?
Du coup, bah déjà, faut savoir que nous, on est éleveur boucher, donc vraiment la base de notre production, c'est la viande en frais. Donc tout est conditionné sous vide parce que c'est notre manière de travailler pour garantir une simplicité d'utilisation pour le client, une conservation, et aussi permettre au client d'acheter une viande qui va continuer de maturer dans le sous vide. Donc là, c'est comme un boucher classique. Vous pouvez venir chez nous acheter un steak, deux steaks, un faux filet, un rôti. On travaille sur du sur mesure, donc en fonction des commandes, les clients nous appellent et nous demandent. Voilà, on veut un rôti pour quatre, des petits mangeurs gourmands. Donc vraiment on s'adapte. Et après on fait tous les produits dérivés qui tournent autour de la viande, donc toujours hein, sur site, hein, le labo il est vraiment au milieu de la cour de ferme. Et donc on fait des terrines, donc de cerf et de bœuf, on fait des rillettes, on fait du saucisson, de la viande séchée de bœuf, un peu c'est un peu la viande de grison mais made in Vilaine quoi. Et on fait aussi tout ce qui est conserverie. Donc moi j'ai ma cuisine, c'est beaucoup moi qui cuisine parce que je suis passionné de gastronomie. Et donc vraiment, toute la partie conserverie est faite chez nous, donc on maîtrise aussi tous les process, les recettes aussi. Chez nous c'est pas d'additifs, pas de conservateurs, pas de sel nitrité, c'est 100% local. Quand c'est pas local sur les ingrédients, c'est du made in France. Mmh. Bien sûr sur les épices et autres. Là par contre on fait, c'est des épices qui viennent de l'étranger, mais là par contre c'est toujours pareil. On travaille avec des fournisseurs qui sont ultra locaux. Donc voilà. Et donc en conserverie, on fait des plats cuisinés, des viandes en sauce, la bolognaise de Vilaine, du chili con carne, et on fait de la prestation traiteur en plus. Donc on a une salle de réception. Vous avez pu découvrir ça d'ailleurs, vous avez été plongé dans le grand bain dès la première semaine, où on fait des repas pour 40 à 50 personnes au maximum dans notre salle de réception. Et après, on peut être mandaté via le réseau Bienvenue à la Ferme pour faire des prestations traiteurs pour des groupes plus importants. Tous les ans, notamment, on prépare notamment le repas pour le repas des maires du Maine-et-Loire, où là, on peut faire manger. Donc, on est plusieurs producteurs à collaborer sur cet événement-là. Et on fait un repas pour 300 personnes quasiment. Donc, on sait faire. C'est des choses qu'on sait faire.
Et on parlait du coup de la transformation des produits. Toi, quand tu as racheté la ferme, donc il y avait déjà un laboratoire de transformation. Mmh. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui te tient particulièrement à cœur et que tu aurais développé s'il n'y avait pas ? Et qu'est-ce qui est important pour toi dans la transformation du produit ?
Alors, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais quand j'ai repris la ferme, ce qui m'a plu, c'était vraiment déjà l'élevage bovin et la transformation, la vente directe. Ouais. Le fait d'avoir le lien avec le client, je trouve ça essentiel. Et il n'y a pas que le lien avec le client, il y a aussi le fait de valoriser ses produits. Alors c'est vrai que pour certains ça peut être compliqué, mais c'est vrai que faut se détacher de ces animaux au moment où ils partent, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, je sais la vie que je leur ai donnée, je sais la fin que je leur donne aussi, et quelque part du coup je fais tout pour mettre tout en œuvre pour garantir le bien-être des animaux de A à Z. Et du coup quelque part c'est en fait, c'est pas rendre hommage à l'animal, mais c'est valoriser au mieux les produits qu'on fait. Donc nous, chez nous, on travaille l'animal dans sa totalité, quoi. Mmh.
Donc la ferme de Vilaine, c'est vraiment suit vraiment le produit, donc depuis la production jusqu'à la vente. Donc où est-ce qu'on peut retrouver tes produits, donc en vente en direct ?
Eh ben, en fait, nous on écoule tous nos produits dans le Maine-et-Loire quasiment.
Okay.
Donc en fait, on est adhérent de deux magasins de producteurs où on est 30 producteurs dans chaque magasin, une trentaine de producteurs dans chaque magasin. Et donc c'est à Saint-Sylvain-d'Anjou, à côté d'Angers, dans l'agglomération angevine. Là, du coup, on fait 60% de notre chiffre d'affaires dans ce magasin-là. Ensuite, on est aussi adhérent au magasin La Ferme Angevine à Beaucouzé. Et donc à Beaucouzé, on est pareil, une trentaine de producteurs, et dans chacun des magasins, en fait, c'est un producteur, une production. Donc nous, on est dans chacun des magasins, on est le quatrième chiffre d'affaires. Donc c'est nous qui produisons le bœuf et le cerf pour ce magasin-là. Ensuite, moi, tous les vendredis après-midi, je suis ouvert de 15h à 19h dans le Baugeois, au sein de la ferme. Donc les gens qui ont passé commande ou qui veulent acheter de la viande localement sur Baugé, peuvent venir, il n'y a pas de problème, et bien au contraire. Et après, on est fournisseur officiel cette année des cantines scolaires. Donc on travaille avec cinq cantines qui sont en cantines indépendantes, donc qui dépendent pas d'un groupe de production de repas, on va dire. Et on travaille avec trois revendeurs. Donc c'est des privés qui ont monté des magasins de produits locaux et qui m'achètent la viande et qui la revendent en se faisant leur marge, hein, du coup. Mais qui ont vraiment l'objectif, c'est de se reconcentrer sur les centres-villes et pouvoir permettre de, enfin mettre à disposition de la viande et des produits locaux en direct aux habitants de ville, quoi. Donc c'est ça qui est chouette, quoi.
C'est vrai que nous, en plus, on a eu la chance de t'accompagner dans tout ton quotidien et on a rencontré notamment une des cantinières qui reçoit tes produits, qui nous expliquait que donc tous les petits bouts entre 3 et 6 ans avaient la chance donc de goûter au cerf et à toutes tes viandes lors de leur repas. C'est quelque chose, toi, qui te touche particulièrement, que les jeunes, justement, puissent découvrir dès leur plus jeune âge de la bonne cuisine, des bons produits, et soient sensibilisés à ça dès l'école primaire, en fait.
Ouais, ça me touche particulièrement. Enfin, l'objectif, c'est pas vraiment... Il y a plein de gens qui pourraient se dire, oui, bah, c'est un placement produit, parce qu'en touchant les enfants, on touche les parents. Sauf que moi, à la base, je le voyais pas vraiment comme ça. J'aime bien défendre l'éducation, et l'éducation culinaire avant tout. Je pense que c'est comme ça qu'on, dès le plus jeune âge, qu'on forme les gens à bien manger. Et c'est vrai que j'envie beaucoup les enfants, notamment de manger en cantine qu'on fournit, parce que les cantinières sont passionnées, les plats qu'elles font sont superbes, et ça donne vraiment envie de retourner à l'école et à la cantine notamment. Et ouais, non, c'est une fierté de savoir que les enfants mangent bien, mangent des bons produits. Non pas que je dise que mes produits sont particulièrement bons. C'est pas pour nous jeter des fleurs, c'est aussi de dire que elles travaillent avec tous les autres produits, les accompagnements, c'est tout. Elles font tout. C'est vraiment un travail d'orfèvre et franchement, c'est une fierté, mais je les remercie, quoi. C'est un honneur que d'avoir leur retour quand elles viennent à la ferme, nous dire que les produits c'est génial, que on est honoré de savoir que les enfants mangent très bien.
C'est vraiment chouette. Et donc voilà, donc on comprend bien que la ferme de Vilaine est quand même une belle vitrine de la valorisation du produit et du circuit court. Mais au-delà de ça, on voulait aborder l'aspect un peu plus technique vraiment de l'activité. Et en quoi est-ce qu'à la ferme de Vilaine, tu pratiques l'agriculture de manière un peu différente? Quel est ton angle de ta vision de l'agriculture et en quoi est-ce que tu romps un peu avec une agriculture plus traditionnelle? Qu'est-ce que voilà l'innovation, la partie d'innovation dans ton métier, qu'est-ce que c'est?
Je pense que vous l'avez vu en 3 semaines, il y a pas mal de points, je sais même pas par où commencer.
Oui, c'est qu'il y a beaucoup de points à aborder.
Ça a animé beaucoup de discussions entre nous.
Exactement. Mais on peut commencer par parler de ta pratique de l'agriculture de conservation des sols.
Si vous voulez, oui. C'est vrai que du coup, sur la ferme, on n'est pas en bio. On pourrait s'attendre, très souvent, on a la question, on pourrait s'attendre en vente directe à avoir affaire à un producteur en agriculture biologique. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut mettre en avant tout de suite. Je dis pas qu'on ne passera pas en agriculture biologique dans les années à venir. Ça fait partie des réflexions, notamment avec les projets qu'on a actuellement avec mon futur associé, dont on parlera peut-être après. Donc, on se dit pourquoi pas, mais pas tout de suite, parce qu'en fait, quand j'ai repris la ferme, moi, je suis un féru passionné d'agronomie. Et de par mon ancien métier et mes voyages, mes divers voyages, je me suis passionné pour l'agriculture de conservation des sols ou agriculture régénérative. Et donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'abandon du labour et de tout type de travail du sol au profit de la couverture permanente des sols, de la réduction du travail, voire du semis direct, et de la diversification des rotations, donc du nombre de cultures sur la ferme. Donc, tout à l'heure, j'en parlais, on en a quand même un certain nombre. On fait pas la classique rotation McDo, on va dire CBO, colza, blé, orge. C'est pour ça que je faisais ma petite blague sur les vers de terre, c'est que pour moi, les vers de terre, c'est mon troisième cheptel, quoi. Donc, là, vraiment, la vie du sol en général. On parle beaucoup des vers de terre parce que c'est en masse, c'est ce qui représente le plus. Mais il n'y a pas que les vers de terre, il y a aussi tout ce qui est carabes, les colamboles, les bactéries, les champignons du sol. Et en fait, à travers ça, on va replacer l'agronomie au centre de nos systèmes. Et alors, on va chercher plusieurs aspects. On va chercher, d'une part, pour un certain nombre d'exploitations, ça va être un gain de temps. C'est-à-dire que du coup, tout le temps qu'on passe pas au travail du sol, on va le revaloriser autrement. Déjà, on observe pas beaucoup plus nos cultures. On va travailler plus sur le système, le mélange de cultures au sein d'une même parcelle. J'en parlais tout à l'heure avec les métayes. Et vraiment, du coup, le fait de n'avoir l'intervention que de semis, ça supprime un certain nombre d'interventions. Donc, il y a la réduction du temps, il y a la réduction de carburant aussi, puisque du coup, on a des outils qui sont quand même moins lourds et moins consommateurs de carburant à traîner. On parle aussi du stockage de carbone, puisqu'on produit plus de biomasse en mètre carré. À chaque fois qu'une culture est récoltée, en fait, derrière, on resème un couvert végétal ou qui va permettre de venir restructurer le sol par la racine. Et donc, ça va vraiment nous permettre d'éviter ce travail du sol par le végétal, quoi. Remplacer le fer par la racine et la photosynthèse et tout ça, quoi.
Et donc, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en sol, comment on peut vite, enfin, ou facilement voir qu'un sol est bon et riche comparé à un sol cultivé avec des techniques plus traditionnelles?
Alors, on le voit pas sur les parcelles, on le voit pas du jour au lendemain. En fonction des types de sols, ça se voit pas tout de suite. C'est pour ça que nous, on se laisse, moi, je me laisse 5 ans. Okay. Parce que quand j'ai repris la ferme, toute la ferme était labourée, alors plus ou moins systématiquement, mais quand elle n'était pas labourée, elle était travaillée avec plusieurs passages de travail du sol. Donc une structure intéressante de sol, c'est un sol grumeleux qui va se travailler tout seul à la main sans avoir besoin de passer un outil. Vous avez pu le constater dans les parcelles, il y a même des parcelles où on a semé du blé en octobre, là, rien que de passer l'outil, le semoir, ou rien que d'y aller à la main sans avoir passé le semoir, la terre se travaillait toute seule. Mmh. Et on trouvait en effet des vers de terre dès la surface, en train de bosser. Quoi.
Ouais.
Ils étaient au travail, c'est les 24 heures, ils travaillent 24 sur 24 au 3-8.
Et ils sont bien nourris.
Ouais. Bien nourris, non rémunérés, sinon ça coûte très cher. Mais par contre, on essaie de préserver ça. Et c'est vrai que c'est une texture grumeleuse, sur lequel on va pas avoir d'horizon compacté, de tassement globalement. C'est une structure qui va se défaire toute seule, se travailler naturellement. Et l'objectif, c'est de gagner en portance des sols, gagner en structure, et puis aussi en porosité. Donc les sols se densifient un peu, mais la qualité de l'eau derrière dépend aussi de tout ça. Si on a un maillage avec des galeries de vers de terre qui permettent l'infiltration et tout ça, on va avoir des eaux au final qui vont se retrouver de meilleure qualité, quoi.
Et ce qu'on voit pas aussi, et ce qu'on a du mal à imaginer, c'est qu'est-ce qu'une biodiversité bien équilibrée dans un sol. On a cru comprendre que voilà, il y a une cohabitation d'espèces qu'on voyait pas forcément et qu'on connaissait pas. Et t'avais utilisé une image assez intéressante qui était celle du toit, en dessous duquel il y a plein de petits habitants qui,
ouais, c'est ça,
qui ont un ordre bien établi.
En fait, c'est ça. En fait, il y a plein de manières de faire de l'agriculture. Enfin, moi, je prône l'agriculture de conservation, mais c'est pas pour autant que mes voisins qui travaillent en conventionnel ou en travail du sol ou même en agriculture biologique qui travaillent le sol. Hein, faut le dire. Hein, l'un des premiers enjeux de l'agriculture, c'est de produire une culture pour produire des céréales. Mais pour produire cette céréale, donc c'est la plante qu'on aura choisi de cultiver, il faut essayer qu'il n'y ait pas les autres plantes qui vont l'empêcher de se développer. Mmh. Et donc, il y a plusieurs voies pour ça. Il y a soit avec la chimie, donc nous, on a toujours un peu recours à la chimie pour gérer le désherbage, soit on est en bio, et donc là, c'est le désherbage mécanique, et donc on va s'attaquer. Et donc, c'est pour ça que je suis pas en bio, parce qu'en fait, moi, ma vision des choses, ma vision qui est partagée par beaucoup de gens qui sont en agriculture de conservation et régénératif, c'est que le sol, c'est une maison, dans laquelle il y a plein d'habitants. Et ces habitants cohabitent, tous. Et en fonction des pratiques qu'on a, on va sélectionner plus ou moins d'habitants, et ces habitants-là sont plus ou moins sensibles en fait à leur environnement et aux variations de leur environnement. Mm-hmm. Donc il faut imaginer une maison avec un toit. Si on va venir tout le temps abîmer la maison, la dégrader, l'inonder, casser sa toiture parce que le sol il n'est pas couvert, ça veut dire que ces habitants-là, les mycorhizes, les champignons, les bactéries, les vers de terre, vont devoir reconstruire ça à chaque fois. Donc, il y en a certains qui disparaissent. Et donc, il va y avoir, en fait, une sélection des faunes et flores du sol. Donc, les animaux et les végétaux, enfin, pour globalement, là, on va dire, animaux et puis végétaux du sol, pour faire court. Et donc, on va sélectionner, en fait, ceux qui sont le plus adaptés à l'environnement qu'on pratique. Puisque c'est nous qui impactons l'environnement de la parcelle. Et donc, là, moi, mon objectif, c'est que, de garantir que la maison soit toujours couverte, qu'il y ait toujours le gîte, le couvert, et qu'il soit bien, quoi, pour que tout le monde cohabite. Et que donc pour ça, après, on a plein d'engagements. Ce serait illusoire de se dire qu'on peut faire ça tout seul. Donc moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Fermes 30 000, donc réseau Défi et Cofito, qui est géré aussi par la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire. Donc il y en a, c'est un réseau national, hein, donc où les agriculteurs s'engagent volontairement dans des démarches de calcul et puis d'impact environnementaux notamment. Et donc dans ce groupe-là, on est une quinzaine d'agriculteurs à être volontaire à travailler sur le semi-direct, comment réduire les charges d'intrants et autres.
Semi-direct, du coup, qu'est-ce que ça veut dire?
Semi-direct, c'est le principe de venir semer directement sans toucher, sans travailler le sol.
Mm-hmm. D'accord.
En plein, on travaille juste la future ligne de semis, soit avec une dent, soit avec un disque, et c'est le principe de la fermeture éclair. On ouvre le sol, on met la graine, mm-hmm. on referme le sol. Voilà, okay. C'est tout.
Et donc, sous couvert, ça signifie.
Et donc là, on peut aller encore plus loin. Donc SDCV, c'est semi-direct sous couvert végétal. Donc là, vraiment, c'est on travaille. Donc on, vous l'avez vu cette année, on travaille, on vient semer la culture directement sous un couvert vivant ou non. Et donc là, on garantit une couverture du sol.
Donc par exemple, nous, on a semé du blé dans de la luzerne.
Et donc là, c'est encore plus particulier ou poussé, peu importe le terme, mais on a semé directement du blé dans une luzerne vivante. Donc l'objectif, c'est que d'une part, ça couvre le sol. En plus, la luzerne est une légumineuse, donc la partie végétative va mourir suite au désherbage et au roulage, et donc elle va alimenter le sol avec sa partie végétative. Et après le blé, l'objectif, c'est de la retrouver en sortie de récolte. Voilà.
Ok. Super intéressant. Et la légumineuse vient jouer un rôle avec l'azote, notamment dans le sol.
C'est cela même.
J'ai bien compris.
C'est exactement ça. C'est que l'intérêt de la légumineuse dans les rotations en général, que ce soit dans un couvert ou en culture, c'est que la légumineuse, elle a besoin d'un peu d'azote présent dans le sol. Et donc et après, elle est en mesure, grâce à l'association avec d'autres êtres vivants du sol, de créer des nodosités, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça, et elle fixe l'azote de l'air pour sa photosynthèse, sa croissance.
Ouais, ce qui est assez fabuleux, c'est que là, donc, on est très dans le théorique, mais en fait, dans la pratique, déjà en 2 ans, il y a eu des résultats super encourageants sur tes parcelles, il y a eu du petit monde qui s'est installé progressivement. Tu peux nous parler un peu de ce que tu as pu observer dans tes parcelles grâce à ces techniques?
Ouais, en fait, il y a plein d'incidences et d'observations qui s'en suivent de ces pratiques-là, parce que du coup, on chamboule un peu les parcelles, le sol réagit un peu différemment. On peut même dire que les premières années, il fait un peu sa puberté, quoi. Il se rebelle, le sol, on voit des plantes qu'on n'avait pas observées avant qui poussent dans les parcelles, parce que du coup, les graines ne sont plus brassées, donc il y a certaines espèces qui germent, pas d'autres, et d'autres plus que d'autres. Et donc, en fait, tout à l'heure, je disais qu'on faisait partie du groupe semi-direct du Maine-et-Loire, mais je fais aussi partie du réseau Arbre à l'échelle nationale, qui est un réseau d'observation de la biodiversité à l'échelle des parcelles. Et donc, en fait, on a suivi, en effet, tout ça, toutes les mouvements, les déplacements d'insectes à l'échelle même de la parcelle. Donc on a une faune d'insectes qui a été suivie par un entomologiste, et en effet on voit une diversité d'insectes assez incroyable, notamment la fumée des carabes qui est très très développée et qui est bien présente, et ensuite on a croisé un petit amphibien qu'habituellement on ne trouve pas trop dans les parcelles cultivées, qui est venu lui s'approprier un petit coin de terrain, et puis qui agitait là. Donc c'est un petit crapaud terricole qui fait sa galerie en fait dans les sols non travaillés, et donc il est là au milieu de la parcelle, et c'est chouette de voir en fait la vie se réapproprier ces terrains, quoi. Donc voilà, c'est satisfaisant quelque part.
Ouais, j'imagine et quant à l'élevage, c'est quand même un sujet qui souvent fait assez polémique. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ta vision de l'élevage, de qu'est-ce qu'un élevage durable, qu'est-ce qu'un élevage innovant, quelles pratiques tu mets en œuvre pour essayer de te rapprocher de cet idéal, voilà, donc je te laisse nous expliquer ça.
En termes de pratiques, je peux pas dire que je sorte vraiment du lot, hein. Moi, je suis éleveur bovin, viande et cervidé. Sur la conduite d'élevage, je pratique les mêmes choses sur mes bovins que sur mes cervidés. À part que les clôtures sont un peu différentes sur les cervidés puisqu'elles font 2 mètres de haut, mais en effet, tous les animaux pâturent. On essaye, sur les bovins viande, on est en pâturage tournant dynamique. Mm-hmm. Ça veut dire que les animaux ont des temps de présence assez courts à l'échelle des parcelles, avec une population assez élevée à un moment donné. Comme ça, les animaux, en fait, ont toujours l'herbe la plus fraîche possible. Et ça nous permet de gérer les pousses de l'herbe. On continue de manière optimale. Et donc, ça, à l'échelle de la France, on n'est pas forcément très nombreux à faire du pâturage tournant dynamique, bien que c'est une technique qui se développe énormément. Ouais. Après, on est quand même beaucoup à faire du pâturage. Je pense que le consommateur a oublié ça et c'est un problème véhiculé notamment par les médias que de dire que l'élevage égale élevage intensif égale hors sol égale ça c'est faux. Faut aller voir les voisins, aller voir vos voisins agriculteurs, aller voir les élevages comment ça se passe. Les vaches pâturent pour la plupart, en tout cas en élevage bovin viande ça pâture, bovin viande allaitant. En laitier, il y en a beaucoup qui pâturent encore, hein. Bien sûr, il y a des élevages hors sol, mais il y en a aussi qui pratiquent le pâturage et qui défendent ça. Donc, c'est aussi au consommateur de se poser la question de qu'est-ce qu'il a envie d'acheter en grande surface. Du lait 100% pâturage, il y en a. Hein. Donc, s'il veut ça, il achète celui-là. C'est accessible. On a des marques comme Fair France où c'est qui le patron qui l'intègre directement dans leur cahier des charges.
Et donc en termes d'empreinte carbone, le fait que les vaches soient en pâturage tournant dynamique et donc occupent des prairies qui sont quand même qui stockent beaucoup de carbone avec aussi pas mal d'arbres sur les prairies, on peut dire que c'est une manière un peu durable aussi de faire de l'élevage.
Bah, je pense que la manière la plus durable aussi de voir l'élevage, c'est pas que de faire pâturer des animaux sur des prairies ou dans du bocage ou faire de l'agroforesterie, hein, chose qu'on ne fait pas encore et je ne pense pas que ce sera l'ordre du jour tout de suite, mais en tout cas, je pense que la vision la plus durable de l'élevage, c'est celle d'être polyculteur-éleveur ou alors 100% herbe, mais il faut aussi savoir être autonome en alimentation, ce qu'on cherche nous. Je pense que la manière la plus durable de voir l'élevage, c'est la complémentarité des systèmes. Moi, avec l'agriculture de conservation des sols, ce que j'y retrouve, c'est que je mets en place des couverts après mes cultures. Mes couverts sont il y a possibilité de faire pâturer mes couverts. Donc, en gros, on vient mettre les animaux dans un couvert qui vont le pâturer. Donc, ils vont manger le couvert, ils vont faire leur déjection dans la même parcelle. Donc, en gros, on a des animaux qui vont s'alimenter d'une espèce qui pousse après une culture et qui vont en plus fertiliser le sol sur lequel ils pâturent. Et il faut savoir aussi que la vache ou le cervidé sont des ruminants et du coup ils se servent en partie de leur premier estomac, le rumen, qui est beaucoup remis en question parce que c'est une digestion par des micro-organismes. Le rumen c'est pas un estomac chimique, c'est un estomac micro-organique. C'est des micro-organismes qui font la première digestion des végétaux. Et donc c'est comme ça qu'il y a l'émission du méthane. C'est première digestion qui fait l'émission de méthane. Les vaches ne pètent pas.
Elles éructent. C'est la légende urbaine finalement.
C'est la légende urbaine ça. Mais bon malheureusement, nos sénateurs, députés, autres, même à l'Assemblée, on voit des choses on entend des choses des fois qui nous font un peu bondir. Mais non, elles éructent. C'est quand elles ruminent et qu'elles ressortent en effet leur la composante ruminale qu'elles relâchent ce gaz, le méthane. Et donc, vraiment, c'est des usines à ensemencer, parce que la vache, avec ces micro-organismes-là, elle va faire des déjections dans lesquelles il y a des micro-organismes, et elle va réensemencer le sol en micro-organismes et autres, et elle l'alimenter avec ses bousses, quoi. Donc, c'est un cycle. En fait, il faut voir ça à l'échelle d'un système complet, avec l'élevage va manger ce qu'on produit sur la ferme et pâturer des terres qui pourraient pas forcément être mises en culture, ou même pâturer pour nettoyer la parcelle ou autre et ou manger le couvert. Et en plus, quand elles sont en bâtiment, on fait du fumier avec la paille qui est produite dans les parcelles de culture. Et après, on répand ce fumier dans les cultures. Donc c'est un cycle vertueux entre le végétal et l'animal.
Donc c'est vrai en plus qu'à chaque fois c'est des moments très agréables qu'on a eu l'occasion de vivre, de faire changer donc les vaches de prairie, et on voit à chaque fois qu'elles sont très heureuses de courir sur une herbe bien haute et de se régaler par la suite.
Bien haute mais pas trop haute.
Bien haute, bien grasse on peut dire quand même.
Bah bien fournie.
Ok top. Et François en fait t'as quand même plusieurs casquettes. Il a aussi eu l'occasion de construire ses propres engins, notamment un semoir qu'on a pu utiliser. L'autoconstruction, donc c'est quelque chose aussi qui te botte, François, c'est quelque chose que tu as eu l'occasion de mettre plusieurs fois en pratique.
Qui me botte, petite blague agricole.
Olé.
Mais ça, c'est encore une fois, c'est des affects personnels que j'ai depuis toujours, où le machinisme a une part importante dans ma vie. J'aime beaucoup le matériel agricole. Alors, j'aime pas la ferraille pour la ferraille. Ce qui me plaît, c'est vraiment l'utilisation du matériel avec son application, vraiment le lien de l'outil, la machine et l'homme. Et du coup... En effet, j'ai auto-construit mon semoir. Alors, il y en a plein qui diront oui, t'aurais pu le faire moins cher, t'aurais pu le faire différemment. Enfin bref, toujours est-il que moi je trouvais pas ce que je voulais sur le marché dans le budget que je voulais mettre. Mmh. Donc, en effet, sur la base d'un ancien outil de travail du sol, j'ai fait mon semoir à dents, avec lequel on a semé cet automne, mmh. puisque j'ai les deux, j'ai un semoir à disque et un semoir à dents, et automne humide, compliqué, donc on a semé au semoir à dents.
Ok. Ok, c'est très intéressant. On voit bien que l'innovation, c'est un tout et qu'il n'y a pas un modèle qui convient, qu'il faut voir le truc dans sa globalité et que c'est plus complexe qu'on en a l'impression. Mais en tout cas, merci pour tous ces aperçus et ces techniques qui nous sont un peu sombres pour nous à la base. Là, on aimerait bien parler de choses un peu plus simples, un peu ton quotidien d'agriculteur. Tes journées types, ta vie sociale, enfin comment est-ce qu'on vit en tant qu'agriculteur ici à la ferme de Vilaine, raconte-nous.
Eh ben oula, on va passer 3 semaines.
Déjà, on met son réveil assez tôt.
Ouais, assez tôt. Après, ça dépend des jours et puis ça dépend ce qu'on entend par tôt, hein, parce que moi, j'ai pas la contrainte de la traite, hein, à faire 2 fois par jour. Mmh. Par contre, du coup, avec les animaux en finition, j'ai quand même la contrainte de l'alimentation le matin, l'alimentation le soir. Après, il y a beaucoup de surveillance. Une journée type, j'en ai plus ou moins. Je sais que j'ai des tâches types à faire toutes les semaines, aller porter une... C'est nous qui gérons les étapes de transport pour entre l'abattoir et le labo à la ferme. Mmh. Donc, c'est moi qui porte mes bêtes, c'est moi qui vais rechercher les carcasses. Donc ça, c'est des choses fixes toutes les semaines. Mmh. Hein, deux jours par semaine, il y a 3 heures qui sont consacrées à ça. Après, c'est des actions qui sont nécessaires chaque semaine. Soit on fait de la transformation, donc il y a des journées de transformation, donc j'entends par là de la conserverie, parce que sinon le labo tourne 3 jours par semaine. Donc là, c'est mes gars, hein, qui gèrent, hein, ils sont autonomes au labo. Moi, je suis pas bouché, chacun son métier. Mmh. Je peux les aider s'ils ont besoin sur du parage, sur tourner des saucisses, préparer des mêlées ou autre, mais vraiment, c'est pas mon boulot. Moi, vraiment, mon boulot, c'est gérer l'élevage, gérer les cultures, gérer l'administratif labo, gérer l'administratif global de la ferme, et puis c'est du boulot, pas mal de boulot de gestion. Donc en effet, je fais beaucoup d'heures de bureau par semaine. Ouais. Donc ça, c'est généralement le soir. Mais mon bureau est pas à la maison. Mon bureau, il est au sein du labo. Mmh. Comme ça, même si j'en fais un peu le soir ou l'après-midi, je suis présent avec mes salariés. Donc j'essaye de, quand je rentre, le boulot, il est en dehors de la porte d'entrée.
Ouais, on voit qu'il faut quand même être assez polyvalent, qu'il y a plein de tâches différentes. Et toi, c'est quelque chose que t'aimes bien de passer d'un métier à un autre finalement, d'aller voir le client directement. Tu peux faire de la livraison, de la production, plein de choses.
Ouais, c'est ce qui me botte. Ouais. 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 Moi, j'adore la polyvalence et je trouve que c'est un métier où on s'ennuie jamais. Mmh. Tout le monde a beau dire, les agriculteurs, vous faites, admettons, c'est vrai qu'en semaine moyenne, je pense que je dois faire entre 65 et 70 heures semaine, donc ça peut paraître beaucoup, mais un cadre en entreprise peut parfois en faire autant, quand il compte tout le temps qu'il passe le soir, surtout maintenant avec les nouvelles technologies qu'on a, les smartphones, on a tous nos mails en permanence avec nous, donc on peut être, entre guillemets, pollué tout le temps par le boulot. Donc c'est vrai qu'on a des rythmes soutenus, après on a des métiers épanouissants qui ont du sens, et surtout, on est nos patrons. Alors même si je bosse pour moi, hein, mais je bosse aussi pour mon partenaire financier qui est la banque. Derrière tout ça, si j'ai envie de m'arrêter 5 minutes parce que je croise un voisin et que j'ai envie de discuter le bout de gras avec lui, on peut se le permettre, quoi. On a, je pense, la chance dans nos métiers d'avoir la possibilité de prendre du temps à certains moments, même s'ils sont courts. D'avoir des vraies valeurs. On parlait de la partie sociale, je pense que vous l'avez vu, enfin les repas entre amis, les soirées, les moments d'échange, les apéros, tout ça, ça fait partie de nos vies et c'est notre quotidien, quoi. C'est vraiment l'humain est vraiment au cœur de nos métiers. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où il y a autant d'humains.
Ouais, c'est vrai que nous, on a quand même été très surprises par l'entraide qui est hyper présente entre les différents voisins. Enfin, la dernière fois, on est allé aider Olivier, un collègue là, pour gérer ses veaux, etc. Enfin, c'est quand même, enfin, quelque chose qui est très fort. Est-ce que c'est partout pareil? Enfin, comment t'en es arrivé à être si bien entouré?
Aller si bien entouré, je pense que déjà en campagne, on est très solidaires les uns des autres. On laissera jamais quelqu'un dans la merde, si je puis me permettre le terme, mais on voit bien que dès qu'il y a quelqu'un qui est en détresse, on a un coup de main. Et c'est donnant. Enfin, je pense que la vie, c'est du donnant-donnant, que ce soit en campagne ou ailleurs. À partir du moment où on donne, faut pas s'attendre à recevoir, mais on peut recevoir. Et donc, vraiment, avec les voisins, c'est comme ça qu'on fonctionne, même sur les chantiers de culture ou d'élevage ou autre. Des animaux qui sauvent, les voisins raboulent alors qu'ils sont en plein travail. C'est vraiment... Ouais, l'aspect d'aide est importante. On a même une mutuelle d'entraide entre voisins, s'il nous arrive un coup dur. Donc elle s'appelle Mutuelle Coup Dur. Et donc c'est une association, vraiment, si on a vraiment un problème, eh ben, on peut faire ça, mettre ça en place. Du coup, tu te casses une jambe, hop, tac, on met en place la Mutuelle Coup Dur. Et du coup, on s'entraide et on met en place un plan d'urgence sur l'exploitation où on va venir s'entraider. Mais on s'entraide aussi beaucoup au moment des récoltes. L'ensilage de maïs, on a besoin par exemple de 5-6 bennes pour faire le chantier. On n'a pas 5-6 bennes par exploitation. Donc c'est 5-6 exploitations qui mettent une benne à disposition. Mmh. Et du coup, et ben après, ça veut dire qu'on va sur 5 chantiers ailleurs aider aussi avec notre benne pour faire les ensilages.
Et d'ailleurs, vous partagez aussi du matériel au sein de la CUMA, c'est ça ?
Je la voyais venir, celle-là.
Oui. Parce qu'on a vécu quand même une assemblée générale de la CUMA, donc c'est quelque chose quand même qui est assez présent dans ton quotidien.
Fabuleuse assemblée générale, d'ailleurs.
On ne s'est pas ennuyé.
Haute en couleur, ouais. Donc la structure d'une CUMA, en fait, c'est une structure coopérative, comme il en existe plein dans le monde agricole. Et donc, en fait, la CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole, permet à des agriculteurs d'adhérer sur du matériel qu'on n'a pas forcément sur l'exploitation, ou alors qui coûte trop cher pour l'avoir chez nous, ou d'avoir du matériel technologique avancé, d'avoir toujours un temps d'avance par rapport au matériel qu'il y a de présence sur les exploitations. Alors, du coup, il y a des hauts débats, enfin, c'est toujours la même chose, hein, c'est le travail en groupe, le travail en société. Donc voilà, c'est l'intérêt vraiment de partager et de la collaboration entre exploitations. Après, il y a d'autres solutions, hein, entre exploitations. On peut avoir du matériel en copropriété, donc c'est le cas avec mon voisin Bruno, avec qui on a tout le matériel de fenaison. Je lui loue son tracteur pulvé parce que c'est du matériel dernier cri, et du coup ça peut même déboucher à des projets qui sont plus importants, quoi.
Ouais, tout à fait. Tu anticipes nos questions puisque tu nous as parlé de tes projets à court, moyen et long terme, et t'as des projets d'association, des projets d'expansion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ben, on a parlé tout à l'heure de la vie d'agriculteur, du rythme de vie, des charges de travail et compagnie. Donc moi, avec la vente directe, j'ai une charge de travail qui est importante. On peut pas être partout. En tout cas, c'est ma façon de penser. Puis il y a des choses de la vie qui font que tu te remets en question aussi. Moi, je suis en instance de divorce, je suis jeune, séparé de ma future ex-femme, et du coup, tu te poses plein de questions. Mais avant ça, je me posais déjà des questions, et notamment avec Bruno, avec qui on partage du matériel. À force de travailler ensemble, je m'étais dit, faut qu'on fasse quelque chose, Bruno, et tout ça. Chaque fois, je voyais, oh là là, tu m'énerves, toi, le petit jeune, et tout ça. Et donc, un jour, à force de cogiter aussi, à force que je le titille peut-être, il m'a dit, mais en fait, c'est pas avec moi, je pars à la retraite dans 2 ans, moi je sais pas du tout quel âge il avait quand il partait à la retraite, mais il m'a dit, c'est pas avec moi qu'il faut que tu t'installes, c'est avec Eric, moi je suis à la retraite dans 2 ans, vous reprenez le bébé, vous vous débrouillez. Donc en fait, Eric, son fils, moi qui suis pas du coin, je le connaissais pas du tout, et on a procédé dans un premier temps à une rencontre, tous les deux à l'époque on était en couple, maintenant on est 0-0 la balle au centre, hein, mais du coup... on a pour projet d'associer les deux exploitations pour déjà gagner en charge de travail, parce que du coup on se répartirait les tâches. Lui plus aux cultures, moi un peu plus à l'élevage et sur la transformation. Il gère un petit peu de partie logistique. Enfin, on se partagerait bien les tâches. Et du coup, on a ce projet-là dans un premier temps, ouais, de mutualiser le parc matériel, mutualiser l'assolement, plein de choses. Donc on réfléchit aux formes sociétales qui nous intéressent. Donc on est en plein dedans là en ce moment, quoi.
Okay. Top.
Génial. Et il y a aussi un autre projet qui est en train de se construire progressivement, notamment l'introduction de porc et d'une charcuterie. Est-ce que tu peux nous révéler un peu les petits secrets
alors
de ce
là,
projet ?
C'est vrai que là, c'est encore un peu plus fou, on va dire, parce que...
Toujours plus fou, ouais.
Ouais, on monte de grade par grade, là, parce que... en fait, on avait décidé de s'installer ensemble avec Eric, et puis... Et arrivé par-dessus, c'était ce projet, en fait, un projet où notre collègue, qui est productrice de porc charcutier dans l'un de nos principaux magasins, donc aux fermes beugeoises, elle décide, ça fait 2 ans qu'elle a décidé d'arrêter. Moi, je venais de reprendre, ça m'intéressait pas du tout et tout ça. Et avec le développement de l'activité, elle ne trouvant pas de repreneur parce que c'est une activité bien spécifique, faut gérer du personnel, faut aimer la transformation, faut gérer la vente directe. C'est notre chiffre d'affaires principal dans l'un des deux magasins. Et de là, comme elle ne trouvait pas de repreneur et parlait d'arrêter, on s'est posé la question de reprendre, de monter la surface de notre labo, et à terme, d'ici 5 à 6 ans, de faire l'engraissement des cochons. Donc, on s'est positionné et on est en train de reprendre la charcuterie et l'intégrer au sein de notre labo. Donc, d'ici horizon août 2021, on intègre l'équipe ainsi que la gérante actuelle au sein de notre structure. Et 1er janvier 2022, au moment de l'arrivée d'Eric, donc mon futur associé, le fils de Bruno, on reprend de manière officielle les rênes de la charcuterie Cochard. Pour le moment, donc on est en train de tout mettre en place. Eric arriverait en stage aidé par la chambre d'agriculture pour découvrir la structure et pour qu'on travaille davantage ensemble. Mmh. Et on ferait les choses petit à petit. D'abord la charcuterie, puis la reprise de chez ses parents, puis à terme l'élevage de cochons. Mais chaque chose par étape. Et on s'interdit pas et on laisse des portes ouvertes de se dire pourquoi pas réintégrer un autre associé peut-être à terme. On verra. Enfin, on n'est pas fermé. Mais déjà étape par étape.
Même à un peu plus long terme, tu parlais de l'idée d'associer d'autres types de productions, des gens qui feraient du maraîchage.
Alors ça, après, moi, c'est des idées que j'ai. Ouais. Faudra que ce soit partagé. À partir du moment, je pense qu'il faut. La vie, c'est des projets qu'il faut toujours avancer. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où les associés s'entendent, je pense qu'il faut pas s'interdire de choses, quoi. À partir du moment où c'est cohérent et que ça correspond au système, voilà. On pense même, en créant les différentes structures, impliquer davantage nos salariés et leur proposer de prendre des parts dans l'aventure sur la partie transformation, quoi. Parce que c'est leur bébé, ils s'impliquent vachement. Moi, j'ai un salarié sur les 3, ça fait 22 ans qu'il est sur la structure. Donc, quand on est arrivé là, c'est qu'on est fiers de travailler pour l'entreprise pour laquelle on bosse, qu'on ait une certaine reconnaissance aussi. Sans lui, moi, je me serais jamais installé. C'est mon pilier. C'est mon salarié, mais au quotidien, on travaille ensemble comme si on était associés, quoi. Donc, pourquoi pas lui donner plus d'implication et...
Je vois que le temps passe très, très vite. En même temps, on a vécu tellement de choses ensemble, tellement intense que c'est dur de tout retranscrire en un podcast assez rapidement. J'aimerais bien profiter un peu de ce moment pour aussi qu'on puisse échanger un peu ensemble sur l'agriculture, enfin plus en général, et parce que c'est quand même un sujet qui est pas mal controversé en ce moment, parfois critiqué. C'est un métier qui est quand même de moins en moins, enfin il y a de moins en moins d'agriculteurs chaque année, des problèmes de transmission de fermes. Toi, enfin quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que tu aurais aussi, enfin peut-être un message à faire passer à des jeunes qui souhaiteraient, enfin s'installer? Voilà, ta vision en tant que jeune installé et passionné.
Je réponds par quelle question d'abord là, parce que il y en a un paquet.
Là, tu peux choisir.
Pour les jeunes qui s'installent, je vais commencer par là parce que j'y suis passé il y a pas très longtemps. Moi, je pense que faut pas hésiter à prendre son projet bien en main, parce qu'il y a dans bien des situations des jeunes qui s'installent. Alors c'est facile, hein, quand on fait des installations familiales, de faire confiance au centre de gestion, mais je pense qu'à un moment il faut être aussi maître de son projet. Je dis pas qu'ils le sont pas, mais j'ai assisté à des installations où c'était parfois un peu vague et flou. Après ils s'en sortent, il y en a qui s'en sortent et c'est bien, hein. Mais en tout cas, faut prendre son projet à deux mains, il faut y croire, et puis quand on n'est pas du milieu, faut pas hésiter à y aller. Il y a des formations qui existent, et quand on est vraiment mordu et qu'on veut y aller, faut se former. La formation, c'est indispensable. Après, il y a d'autres questions sur l'avenir de l'agriculture.
La reprise par les nouvelles générations. Est-ce que tu trouves que les visions évoluent, les pratiques évoluent avec, ou est-ce que tu penses qu'il y a un problème de mentalité encore quels sont les problèmes, les freins à l'évolution de l'agriculture et à la reprise par la nouvelle génération?
La reprise par la nouvelle génération, je pense qu'il n'y a pas forcément de freins. Il y a des gens qui s'installent, on en trouvera toujours. C'est pas ça qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la vision que le consommateur a de l'agriculture, qui est complètement biaisée. Biaisée par plein de choses. Biaisée par la grande distribution et l'image qu'elle veut donner à ses produits, qui font que le consommateur achète bien plus souvent à prix qu'un produit, mmh. et qui est en partie issu, je pense, de nos orientations politiques françaises et européennes, et puis les médias. Je pense qu'on a un gros problème de communication en agricole parce qu'on fait partie d'un des rares milieux où on laisse les gens parler de nous avant de parler de notre métier. Mmh. Et ça, c'est vraiment un très gros souci. Et on est très critiqué dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on sort un pulvérisateur ou autre. Faut savoir quand même que quand on traite, en tout cas chez nous, on traite jamais à plus de 80 ou 100 litres de bouillie, donc d'eau mélangée avec la solution. Donc des fois, on est à des 0,0,00 en quantité de produit par litre d'eau. Mmh. Enfin par hectare plutôt, et donc moi je m'interroge beaucoup sur la conscience et la cohérence du consommateur vis-à-vis de ses actes des fois. Mmh. Donc j'en remets pas tout sur le dos du consommateur, le consommateur il est orienté, hein. Mais quand on nous critique sur les produits phyto et qu'on voit après des particuliers qui installent les jolies petites fleurs de tournesol autocollantes qu'on met sur les fenêtres et qu'on lit que dans la composition il y a des pyrèthres et qu'on interdit les néonicotinoïdes en France et qu'on autorise ces fleurs à base de pyréthrinoïdes qui sont la famille des néonicotinoïdes sur les fenêtres et que c'est dangereux et qu'il ne faut pas le laisser à la portée des enfants et que mmh. parfois c'est mal posé, mmh. ou que les colliers anti-puces des chiens et chats qui sont à la portée de nos enfants sont toujours en vente, qu'on trouve des pyrèthres dans les rayons des détergents, que l'on trouve plein de produits chimiques. Moi, je m'interroge. Et quand on parle, bah oui, mais il faudrait tout passer en bio. Oui, enfin, faut pas oublier que les premiers poisons sont quand même d'origine naturelle et que parmi les principaux bassins de pollution au soufre et au cuivre, on a les vignobles bio. Donc, faut pas oublier que le bio, ça veut pas forcément dire que normalement c'est sain pour l'environnement, vis-à-vis de l'environnement. Et il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame avec le sain pour la santé, ou alors vertueux ou de qualité, et on met tout derrière qualité. On oublie que le bio, c'est pas forcément non plus une qualité organoleptique. Je pense qu'il y a plein de messages. Il faudrait que le consommateur. Après, il y a le pouvoir d'achat. Hein, ça c'est indéniable. Hein, il y a un gros problème là-dessus. Je pense que nos politiques n'en ont vraiment pas conscience. Faut savoir que la part du budget moyen d'un ménage français dans l'alimentaire, c'est 13%. Mm. Dans les années 60, j'avais vu une étude qui disait que ça représentait plus de 45%.
Ouais. Mm.
Donc, on peut quand même se poser des questions à l'heure actuelle du coût de la vie qui a augmenté. Tout n'augmente pas pareil. Hein, moi, ça me fait des fois sourire en allant acheter mon pain chez les copains boulangers, de voir à quel point le prix de la baguette augmente et que le cours du blé baisse, ou est toujours au même prix qu'il y a 10 ans. Et là, tu te dis, bah oui, enfin, quand même, je suis d'accord que le coût de la main-d'œuvre a augmenté, mais quand même, enfin, il y a une petite distension, ou que le cours de la viande bovine actuellement est assez bas. Donc, je pense qu'il y a un problème. Pour avoir beaucoup voyagé dans mon passé, et je souhaite encore de pouvoir le faire, je pense qu'on a un problème de protection de nos produits aussi en France et en Europe. Je pense qu'on a un bon système de promotion, on a des syndicats qui nous appuient pas mal, quand je dis syndicats, c'est pas que politique, hein, c'est syndicats aussi alimentaires, Interbev, Bienvenue à la ferme, les groupes, les associations de défense et de promotion des produits alimentaires, ça c'est sûr qu'on peut bien faire la promotion. Par contre, je pense qu'on n'incite pas forcément assez le consommateur via des aides qui pourraient être faites ou autres à acheter français. Achetons français, mais arrêtons d'acheter de l'étranger. On est en train de faire des accords avec tel ou tel pays, quand je dis on, c'est nos politiques, hein, pour lesquels on a voté, qui vont autoriser des accords d'échange de viande bovine qui viennent en direct du Canada, ou alors interdire la néonicotinoïde en France et permettre à Bolsonaro de déforester l'équivalent de l'Essonne depuis le mois de juillet pour implanter de la canne à sucre et inonder le marché mondial en sucre. C'est aberrant, on se tire des balles dans le pied, et on va importer des produits d'étrangers qui valent moins cher, enfin, ou qui sont pas forcément moins bons. On prône le bien-être animal et on va aller importer de la viande des États-Unis ou du Canada qui est faite en hors-sol, ou dans certains cas suite à des déforestations de forêts primaires. Bah, non, mais c'est une aberration. Maintenons l'élevage comme il est fait de manière traditionnelle en France. Je suis bavard.
Ouais, mais c'est très intéressant. On va être obligé de couper court, mais sur une note un peu triste, mais globalement.
Non, pas triste. Non, c'est pas triste. C'est un constat. Tant qu'on fera pas la promotion de davantage de nos produits locaux, de consommer local et du consommer au-delà du local. Mmh. Quand je dis local, c'est mangeons français, quoi. Mmh. Mangeons français. Regardons ce qu'on mange, parce que il y a des gens qui achètent du prix, mais ils savent pas ce qu'ils achètent derrière, quoi. Ou ils regardent pas parce qu'ils achètent le tarif. Mais ce qu'on mange, c'est notre santé. Mmh. C'est ce qu'on garantit derrière.
Alors moi j'aime bien quand même finir sur une petite note joyeuse et à tous les auditeurs qui ont été assez intrigués ou qui sont curieux de mieux découvrir la ferme de François, François organise aussi des visites à la ferme de Vilaine.
Ouais. Oui tout à fait, c'est vrai. Et bah, du coup, bah, quand je dis qu'il faut qu'on reprenne notre communication en main, nous du coup c'est ce qu'on essaye de faire. Alors il n'y a pas que moi, hein. Quand je dis nous, c'est les agriculteurs en général. Donc à travers les syndicats, notamment avec les GIA, vous avez assisté au forum de l'installation qui a des jeunes agriculteurs du Maine-et-Loire. Ouais. Et donc là c'est un moment de communication avec les jeunes, l'éducation, ouais. Avec les différents professionnels du monde agricole. Ouais. Et du coup là c'est des vrais moments d'échange, ça permet d'échanger sur le métier, ça permet d'échanger sur nos productions. Et donc de communiquer nous directement envers tous ces professionnels, ces jeunes qui s'installent, qui veulent s'installer ou qui sont en formation. Donc mais c'est génial. Et donc on voit que de plus en plus, de toute façon on le voit avec sur les réseaux sociaux, les agriculteurs qui prennent de plus en plus en main leur communication avec il y en a un qui s'appelle le YouTuber notamment qui beurre BEU2RE qui est super. Il y a vraiment un tournant là qui est en train d'être pris je pense en agricole et après les gens qui nous écouteront, j'espère qu'ils ne prendront pas mal quand je parle du consommateur, parce qu'on est tous consommateurs et on est tous acteurs dans nos choix de vente, hein, moi le premier. Et donc, c'est grâce à eux qu'on existe, c'est grâce à eux qu'on continue d'exister, c'est grâce à eux qu'on fait de l'évolution dans nos ventes. Et moi, c'est ce qui me plaît dans la vente directe, c'est d'avoir affaire aux consommateurs en face de moi qui me disent « Yes, ça c'est bon, non, ça c'est pas bon, faut que t'améliores ça. » Et donc, je les en remercie et ils sont là au quotidien et toutes les semaines pour nous soutenir. Donc c'est ça qui nous donne la joie et qui me fait me lever tous les matins avec le sourire, quoi.
Bah nous aussi, François, du coup, on te remercie. On te remercie pour ces 3 semaines qui ont été fort en apprentissage pour nous.
En transmission et en partage, ouais.
Voilà.
En tout cas, merci à vous les filles. Et puis franchement, je vous souhaite bon vent et bon courage dans cette belle aventure qui est superbe, je trouve.
Merci.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie.
Et si ce petit parcours à la ferme vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes.
Vous souscrire à un abonnement cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo.
Et vous pouvez suivre nos aventures sur notre compte Instagram @surlechamp2020 ou notre page Facebook Sur le Champ.
Allez, ciao !